France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. 11 millions d'euros de dépenses suspectes en plus. L'audit interne mené conjointement par Renault et Nissan au sein de leur filiale commune basée aux Pays-Bas, la filiale s'appelle RNBV. Cet audit a identifié donc 11 millions d'euros de dépenses suspectes de l'argent utilisé par Carlos Ghosn, ancien patron de l'Alliance automobile franco-japonaise. Le conseil d'administration de Renault souhaite explorer avec Nissan les actions judiciaires qui pourraient être menées aux Pays-Bas, là où la filiale est installée. Carlos Ghosn est déjà poursuivi au Japon et en France pour des transactions, pour des achats suspects. Et toujours à propos de cette filiale néerlandaise de Renault-Nissan, l'enquête s'est intéressée également à l'ancienne garde des Sceaux Rachida Dati et au criminologue Alain Bauer. Une enquête préliminaire porte sur des contrats dont ils auraient bénéficié avec cette filiale aux Pays-Bas. Elle est confiée par le parquet national financier à l'Office anticorruption de la police judiciaire. Gérard Larcher annonce une convention nationale au sein du parti Les Républicains. Elle va se dérouler en octobre prochain et vise à initier un projet pouvant rassembler la droite et le centre, selon les mots du président LR du Sénat. Avant cela, des conventions régionales, départementales et locales vont débuter dans les jours qui viennent pour préparer la grande réunion à l'automne prochain. Des milliers de cheminots étaient hier dans la rue à Paris, 15 000 selon la CGT, 5 500 selon la préfecture. Ils protestaient contre la réforme ferroviaire et la dégradation du climat social dans l'entreprise. Actes malveillants, intimidation, pression policière et judiciaire, voilà ce que subissent les bénévoles qui aident les migrants à Calais et à Grande-Synthe. Une criminalisation et un harcèlement dénoncés par Amnesty International. Ce matin, l'ONG liste dans un rapport les entraves qui empêchent d'aider les migrants. Et puis notez que le gouvernement burkinabé s'est réjoui hier de la décision de la justice française. Elle a validé l'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso. Le frère de l'ancien président burkinabé y est mis en cause dans l'assassinat d'un journaliste en 1998.
Les éditions Radio France présentent La France, chronique d'Aurélien Bélanger. Dans le recueil de ses chroniques matinales sur France Culture, découvrez le portrait de la France d'aujourd'hui. Le Massif Central, la gare Montparnasse, mai 68, le supermarché, les gilets jaunes, Roland Barthes.
La France, c'est un pays qui a perdu son hymne national et qui n'est plus trop sûr de ses goûts ni de son génie propre, mais qui met un bel acharnement, parfois gênant, parfois génial, à les reconquérir.
Des histoires courtes qui dépeignent la vie quotidienne des Français. La France, chronique d'Aurélien Bélanger, un livre France Culture.
Il est 6h03, vous écoutez France Culture. Toufik Hakem est à nos côtés.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, à vous qui nous écoutez tôt à la radio ou vous abonnez au podcast du Réveil Culturel, émission réalisée par Vincent Abouchard avec aujourd'hui à la technique Manuel Couturier, émission préparée avec Corinne Amar et tous les mercredis, c'est l'actualité du cinéma. Et aujourd'hui, on va parler d'un premier film, Les Particules. Un film à la frontière du réalisme et du fantastique. Ça commence comme dans un teenage movie. On suit des jeunes adolescents entre le lycée, les fêtes qu'ils organisent, les campings, les sorties scientifiques. Et puis le film bascule dans d'autres genres. Le suspense d'abord, avec la disparition d'un lycéen. Puis le fantastique, avec de drôles de phénomènes observés. Et si la centrale d'accélérateur de particules qui fait la fierté de ce patelin perdu dans les montagnes était à l'origine des dysfonctionnements et disparitions dans le lycée. L'accélérateur de particules le plus puissant du monde provoque des collisions de protons pour recréer les conditions d'énergie du Big Bang et c'est bien de voir ça au cinéma. Donc d'où le titre Les Particules. Ce premier film, on peut le dire, n'est pas non plus le chef-d'œuvre du siècle, mais son audace et surtout son casting en fait qu'il fut très bien accueilli au dernier festival de Cannes où il a été présenté en avant-première dans la sélection La Quinzaine des réalisateurs. Blaise Harrison, le réalisateur des Particules, est mon invité ce matin. Et puis en deuxième partie, on retrouvera Michel Simon pour ses coups de cœur et ses coups de griffe.
Le réveil culturel. Mercredi, cinéma.
Michel Simon, j'ai dit Simon. Bonjour Blaise Harrison, vous êtes le réalisateur donc des Particules, c'est votre premier film de fiction, mais vous avez réalisé des documentaires. S'il fallait d'abord localiser l'histoire du film.
Bah effectivement, c'est un film dans lequel j'ai eu envie de parler de l'adolescence en s'inspirant des souvenirs et des sensations que moi je garde de cet âge-là, dans cette région en particulier, qui est la région où j'ai grandi, où j'ai vécu mon enfance puis mon adolescence, et qui est une région qui est effectivement à la fois très banale et ordinaire, et en même temps je trouve pleine d'étrangeté et de mystère. Banale parce qu'elle ressemble à beaucoup d'autres régions de France qui sont situées entre la ville et la campagne, avec des fermes, des lotissements, un peu à l'américaine comme ça, et en même temps particulière parce qu'elle est... Voilà, situé entre cette grande métropole genevoise où vivent beaucoup d'internationaux qui habitent cette région, le Pays de Gex où a été tourné le film, et la nature la plus sauvage du Haut-Jura. Et effectivement, en sous-sol, enfoui à 100 mètres sous terre, circulent des particules à la vitesse de la lumière pour reproduire et qui rentrent en collision, pardon, pour reproduire les conditions d'énergie du Big Bang là, juste sous les pieds des habitants, et ça en fait un lieu, je trouve, très particulier et empreint d'étrangeté et plein de mystères.
Et c'est cela qui a inspiré votre première fiction, une fiction qui commence comme si c'était un documentaire. C'est assez documenté sur cette usine, c'est assez documenté sur le territoire de ce pays de Gex.
Oui, je suis parti d'un contexte existant, réel. Moi, j'ai réalisé des documentaires avant cette fiction et j'avais pas envie de rompre complètement avec cette façon de faire. Donc, ce qui m'intéressait, c'était... effectivement, de réaliser une fiction dans laquelle j'ai envie de raconter une histoire et de m'inspirer, de faire en sorte que la réalité vienne nourrir cette fiction. Donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu travailler avec des comédiens non professionnels qui vivent dans la région, de faire en sorte de pas transformer systématiquement voilà ce qui se propose à moi quand je prépare le film et qui s'avère parfois plus intéressant que ce que je peux imaginer à l'avance. Donc voilà, j'ai essayé de trouver un équilibre entre cette approche documentaire que je connaissais et puis cette envie de fiction fantastique en plus et dans le film de à un moment donné de glisser d'un registre à l'autre quoi progressivement.
Et donc c'est un film aussi avec des adolescents, au centre de ces adolescents il y a un personnage, Pierre-André, P.A., c'est ainsi qu'il se fait appeler par ses amis, on dirait qu'il sort d'un épisode de Twin Peaks, il est le mystère même du film. On a envie d'en savoir plus et sur cet adolescent qui a l'air... très perturbé et en même temps tout à fait humain, c'est-à-dire qu'il peut être aussi très drôle comme on peut l'être à cet âge-là.
C'est quelque chose qui m'a tout de suite frappé chez lui quand je l'ai croisé dans le lycée dans lequel on a fait le casting. Il s'est pas présenté au casting, mais c'est moi qui l'ai repéré dans la cour parce que effectivement je l'ai trouvé assez fascinant. Très beau, très étrange, avec une dégaine, une attitude, une façon de s'exprimer qui m'a tout de suite interpellé. Et en même temps, il a quelque chose de très ado, de très normal, de très drôle aussi. Et je crois que c'est ça qui m'a plu, c'est à la fois son côté ado basique et en même temps fascinant à regarder et à observer. J'ai eu envie de travailler avec lui spontanément pour ces raisons. En fait, dès que je l'ai rencontré, je me suis dit qu'il devait absolument être dans le film. Et en même temps, il me semblait très différent du personnage que j'avais écrit dans le scénario. J'ai eu beaucoup de mal à l'imaginer dans le rôle de PA, du personnage principal au début, parce que il est beaucoup moins discret, réservé, observateur que PA. Il m'a fallu une année avant de me dire qu'effectivement c'était lui qui était parfait pour ce rôle-là.
Alors parlez-nous de ce personnage de PA.
C'est un ado qui est un peu qui a une bande de copains, qui est un peu à part, qui est un peu en marche, qui a un côté un peu étrange comme ça, qui est très observateur, qui est très amical, mais qui a une sensibilité particulière par rapport aux autres, ce qui le rend plus attentif aux phénomènes qui se met à observer progressivement dans le film et qui vont en s'accentuant jusqu'à se demander s'ils sont réels ou pas. C'est la question de qu'est-ce qui est vrai. Est-ce que effectivement ce qu'il observe dans la nature, ses déformations, ses lumières, sont provoquées par l'accélérateur de particules, ou alors est-ce que c'est les drogues qu'il prend avec ses copains pour s'amuser, ou alors est-ce qu'il est pas en train de devenir fou. Et voilà, il a cette fragilité, moi, qui m'intéresse à l'adolescence, où on est particulièrement attentif à tout ce nouveau monde qu'on découvre parce qu'on change et on a l'impression que le monde change aussi et ça peut être à la fois angoissant, vertigineux, fascinant, excitant et tout ça à la fois. Et c'est un peu ce trouble-là que j'ai eu envie de raconter à travers l'expérience qu'en fait ce personnage-là qui est quelque chose d'un petit peu hors norme aussi.
Les particules de Blaise Harrison qui sort aujourd'hui au cinéma, extrait.
Ça va, mec ?
Ça va.
Est-ce que vous êtes prêts, la jeunesse ? Un beau sourire, voilà, naturel.
Grosse ambiance, hein. T'es tout mignon dans ton costume tout jaune, là. Petit jeune canari.
Quoi ?
Il se passe des trucs étranges dans mon cerveau. Je vois des trucs bizarres.
Parfois, moi aussi, je me réveille. Et c'est comme si le monde n'était plus pareil. Comme s'il changeait. Et que personne d'autre s'en rendait compte.
Et dans votre film, Blaise Harrison, les jeunes qui font la fête, qui sortent, qui dansent, ils ont tous quelque chose qui ne tourne pas rond. L'héroïne est malade d'une drôle de maladie, on ne saura jamais pourquoi elle est obligée d'avoir ses injections toutes les deux heures. Votre personnage principal, vous venez d'en parler, il est sûr d'à peu près rien de ce qui se passe autour de lui. Ils sont aussi dans la torpeur. Alors cette torpeur, bien sûr, on peut lui trouver des raisons, les drogues, les champignons hallucinogènes, mais on a l'impression que sont déconnectés de la réalité.
J'ai l'impression que c'est un âge où qu'on se trouve, où on est particulièrement sujet à ces questionnements un peu existentiels, métaphysiques, philosophiques presque parfois. Et ce qui se passe dans la région au sein du CERN, le CERN qui est le centre de recherche nucléaire qui abrite l'accélérateur de particules, toutes les théories sur lesquelles travaillent les physiciens au sein de cet accélérateur sont assez fascinantes et vertigineuses quand on y pense. Et pour moi, elles étaient le vecteur de cette inquiétude qui s'empare à un moment de mon personnage et qui je trouve, fait assez bien écho à tous ces questionnements qui peuvent nous habiter à cet âge-là.
Film à suspense, un des adolescents va disparaître. Film fantastique, mais avec très peu d'effets spéciaux, en réalité. Comme si le côté étrange, surnaturel du film, vous vouliez l'obtenir, Blaise Harrison, sans vous défaire du socle très réaliste de votre film, Les Particules.
Bah effectivement, mon approche, elle est d'abord plutôt tournée vers le documentaire. Et j'ai essayé, moi, de raconter cette étrangeté, enfin ces sensations-là, à l'aide de plein de choses dans le film, en fait, plein de moyens qu'offre le cinéma pour faire naître de l'inquiétude, de cette étrangeté, quoi.
Sauf qu'on est très loin du déluge d'effets spéciaux.
Ouais, moi j'ai plutôt envie de travailler les durées, enfin voilà, des temps parfois qui sont un petit peu trop longs, où tout d'un coup notre attention quitte celle de la narration et du récit pour aller chercher des choses un petit peu à côté, quoi. Le son aussi, la musique et le son qui sont très importants dans mes films et effectivement le fantastique qui naît aussi du son. Et de la musique.
Et il y a quand même la clarté des images, la clarté de ces images sombres, puisque c'est tourné en hiver.
C'est vrai que moi, j'ai toujours imaginé un film très obscur, tourné la nuit, effectivement.
C'est très obscur. Mais en même temps, on voit tous les détails.
Oui, l'idée, c'est quand même de voir quelque chose. Et c'était le cas pour les effets spéciaux, c'est-à-dire qu'il fallait à la fois qu'il soit discret et en même temps visible, qu'on ait la sensation d'avoir vu quelque chose sans toujours en être sûr, comme le personnage, en fait. Il se demande sur la nature de ces phénomènes. Il se dit, mais est-ce que j'ai vraiment vu cette lumière, ces particules-là dans l'air ? Et ça m'intéressait que ces effets viennent du réel aussi et qu'ils se mélangent avec cette image très brute, très plus naturaliste, on va dire, plus réaliste.
Blaise Harrison, les particules qui sortent aujourd'hui au cinéma est votre premier long métrage de fiction. Vous avez réalisé d'autres films, des documentaires. Comment êtes-vous arrivé au cinéma? C'est une vocation, c'est une envie de raconter des histoires, de rendre compte du réel.
Ben, j'ai l'impression que c'est une question difficile. Pourquoi est-ce que je fais des films, en fait? Je crois que ce qui me motive avant tout, c'est mon désir et mon plaisir de rencontrer des gens et de découvrir des lieux que je rencontrerais pas sans ça. Donc, je suis très attaché, en fait, au réel. Et c'est aussi pour ça que cette fiction, je l'ai envisagée de cette manière. C'est-à-dire, j'étais plus intéressé par ce qui allait se produire dans la réalité, dans la préparation, le tournage du film, plutôt que par tout ce que j'avais imaginé en écrivant le scénario.
Et est-ce qu'il y a des réalisateurs qui ont compté pour vous, qui vous ont accompagné durant vos premières années de cinéaste, Blaise Harrison?
Je crois qu'un des premiers chocs que j'ai eu au cinéma, ou enfin quelque part qui m'a aidé à savoir ce que je voulais faire, c'est La Vie de Jésus de Bruno Dumont. Voilà, parce que c'est la première fois que je voyais la France filmée de cette manière, avec une ampleur, tournée en cinémascope, avec des comédiens non professionnels et en même temps avec un scénario quoi très précis, beaucoup de rigueur. Et le fait comme ça de réussir aussi bien à trouver l'équilibre entre une forme très rigoureuse de cinéma et en même temps la mêler au réel, quoi, ce travail aussi avec des comédiens non professionnels, filmer des décors réels, tout ça, ça a vraiment été un déclic, en fait. Et je crois que j'ai trouvé, grâce à ce film, l'endroit où j'avais envie de travailler aussi.
Et les films d'adolescents, de teenagers, ces films de genre, est-ce qu'ils vous ont marqué aussi? Parce que on ne sait pas comment voir les particules. Est-ce que c'est un hommage à ces films de campus?
Ah non, mais moi j'adore ces films. C'est-à-dire que j'ai été nourri par les teen movies, les films fantastiques, le cinéma d'horreur. Enfin voilà, comme j'ai l'impression beaucoup d'adolescents, quoi. Et c'est vrai que j'adore jouer avec les codes très identifiés de ce cinéma-là. Et en même temps de me les réapproprier pour essayer d'en faire autre chose, quoi. Et de pas être dans le genre pur. C'est pas, pour moi, Les Particules, c'est pas un pur film de genre. C'est plutôt un film qui lorgne parfois du côté de certaines références qui peuvent être assez identifiées. Et en même temps, voilà, j'essaye de jouer avec tout ça. Ouais, c'est un plaisir un peu de cinéma aussi.
Ce film qui sort aujourd'hui, Les Particules, a été dévoilé à Cannes, à la quinzaine des réalisateurs. Donc vous étiez avec vos comédiens à Cannes cette année, Blaise Harrison. Qu'est-ce que ça vous a fait de découvrir que votre film était en dialogue avec plein d'autres films qu'on a vus à Cannes, c'est-à-dire des films qui mélangent le fantastique avec le réel, le genre qui est repris pour mieux être détourné?
Ben, je pense que oui, c'est une façon un peu... Peut-être qu'il y a l'envie aujourd'hui de s'affranchir un peu d'une forme de naturalisme qui est aussi très présente dans le cinéma français, et d'essayer de raconter certaines angoisses de la société en jouant justement avec des références qui sont peut-être nouvelles.
Vous êtes suisse?
Je suis franco-suisse.
Oui. Franco-suisse, vous avez vécu en Belgique?
Oui.
Vous êtes installé à Paris depuis quelques années?
Oui. J'ai fait mes études en France, à la frontière, dans une région un peu particulière, très internationale, mais en France quand même. Et le fait d'aller étudier à Lausanne, puis de vivre à Bruxelles et de revenir à Paris, j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça m'a permis de prendre du recul sur la culture française, en fait, et d'être nourri aussi par d'autres choses. Et j'ai l'impression qu'effectivement... En Suisse et en Belgique, et voilà, on va voir ailleurs aussi. Enfin, voilà, moi, ça m'a nourri, en tout cas. Ça me permet d'avoir un peu de recul sur le milieu franco-français.
Vous allez encore voyager, Blaise Harrison? Vous allez encore voyager, vous vous sentez bien?
Je suis bien ici. Il y a plein de choses à filmer en France. J'adore filmer la France.
Votre prochain film?
J'ai envie de découvrir un nouveau territoire cette fois, je crois que j'ai envie, mais bon, qui est relativement proche de celui que je connais. J'ai beaucoup envie d'explorer les Vosges, donc la montagne, les sapins, la forêt encore, et de continuer à faire des films sur l'adolescence. Ouais, ça me plaît beaucoup.
Merci d'être passé ce matin. Les Particules, votre premier long métrage de fiction, sort au cinéma. Et dans un instant, on va retrouver Michel Simon. Merci beaucoup, Blaise Harrison.
Merci à vous.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour Michel Simon.
Bonjour Toufik Hakem.
Et bon anniversaire, le numéro 700 du magazine que vous dirigez, Positif, vient de sortir. 700e numéro et 68 ans d'existence.
Absolument.
Et vous mettez en couverture un film France Culture que vous allez défendre, qui va sortir bientôt.
Alors justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a choisi pour la couverture une photo de tournage, ce qui est inhabituel. D'habitude, c'est des photos du film. On voit effectivement une jeune femme, il y a un hélicoptère, il y a des chevaux sauvages qui galopent dans le Nevada. C'est un film étonnant, un premier film de Laure de Clermont-Tonnerre.
Qui s'appelle Nevada.
Nevada, voilà. Ouais. Le titre anglais, c'est Mustang, car il s'agit de Mustang sauvages, que l'on capture et que l'on va redresser, qu'on va faire redresser par des prisonniers de droit commun, des criminels, des gens qui ont commis des crimes terribles. Et pour les rééduquer, eh bien, ils doivent se charger d'un Mustang. C'est la thérapie par l'animal. Et c'est un film qui est entre le western et le film de prison, qui sont deux grands genres américains. Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est fait par une Française, avec Mathias Schoenaerts, le grand acteur flamand, et puis Bruce Dern, qui est un mythe du cinéma américain.
Et qui est toujours vivant, apparemment.
Qui est toujours vivant, absolument. Donc c'est un film, d'abord, remarquablement filmé. Il y a une maîtrise absolue, il y a une tension permanente. Il y a cet homme qui a tué sa femme, qui reçoit la visite de sa fille et qui va se retrouver avec ce Mustang qu'il va réussir à dompter pour d'une certaine façon se réhabiliter. C'est un film, encore une fois, que nous avons énormément aimé, et c'est un premier film plein de talent, mais c'est pas la première fois que les premiers films sont pleins de talent.
Comme pour les particules. Alors parlez-nous de cette réalisatrice.
Laure de Clermont-Tonnerre, c'est une jeune femme qui est d'une famille de producteurs, donc elle est baignée dans le cinéma. Du coup, elle a joué des petits rôles chez Raoul Ruiz, elle a joué des petits rôles chez d'autres cinéastes, elle a joué dans Le Scaphandre et Le Papillon, et dans trois films de Raoul Ruiz, aux côtés d'Isabelle Huppert dans l'un d'entre eux, des petits rôles. Et ensuite, elle s'est rendue compte que c'était pas sa vocation, qu'elle devait finalement beaucoup plus vouloir avoir des initiatives plutôt que d'être une interprète. Et donc, elle est partie à New York, elle a étudié le cinéma à New York, et elle a fait deux courts-métrages. Le premier, qui s'appelait Rabbit, c'est-à-dire déjà américain, sur des lapins qui également sont associés avec des prisonniers pour pouvoir se réhabiliter. Alors elle a vu plus grand avec les Mustangs, évidemment, mais c'est un sujet assez proche. Et elle a fréquenté les prisons américaines, elle a vu les psychologues, etc. Et elle a élaboré un scénario, car il s'agit évidemment d'une fiction. Il s'agit pas du tout d'un documentaire, mais une fiction qui a la puissance de faits vrais.
Quand vous parlez de Mustang, on pense peut-être à tort au film de John Huston, Les Désaxés de Misfits,
oui,
avec son côté allégorique.
C'est tourné dans la région où on a tourné les Misfits. Et voilà. Et donc, c'est pas un hommage à Huston. C'est un film complètement différent du film de Huston, mais qui est resté mémorable.
Nevada, donc, en couverture du numéro 700 de Positif, Michel Simon. Et vous avez profité de ce numéro spécial, ce numéro anniversaire, pour faire ce que les lecteurs adorent lire, c'est-à-dire des listes des meilleurs films de tous les temps.
Les films préférés. Alors, c'est pas les meilleurs. Par exemple, Citizen Kane n'est pas mentionné. C'est les films préférés. On peut préférer un film qui n'est pas automatiquement un chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma. Par exemple, La Splendeur des Ambersons de Wells est beaucoup plus cité que Citizen Kane. Et puis, il y a aussi 21 membres du comité de réaction qui ont écrit une page chacun sur un moment mémorable d'un film qu'ils ont passionnément aimé. Et le résultat, par ailleurs, du référendum, avec 60 votants, c'est-à-dire, il y a des rédacteurs comme Emmanuel Carrère, comme Frédéric Vitou, qui sont, l'un est à l'Académie française, l'autre un romancier très connu, qui ont écrit beaucoup dans Positif. Et le résultat est, évidemment, est très classique, c'est-à-dire Vertigo est en tête, suivi de La prisonnière du désert de John Ford. En troisième, c'est Ex aequo, L'aurore de Murnau, Barry Lyndon de Kubrick, La nuit du chasseur de Charles Boughton et La règle du jeu de Jean Renoir.
Bon, c'est très cinémathèque tout ça. Il n'y a pas de nouveaux films un peu?
Alors si, il y a tout de même, parmi les nouveaux metteurs en scène, il y a Terrence Malick, par exemple, qui est dans les 20 premiers, qui est un des cinéastes les plus cités. Et puis voilà, c'est à peu près tout. C'est vrai que c'est plutôt... Et Woody Allen. Terrence Malick et Woody Allen sont dans les 20 cinéastes préférés, mais le préféré des préférés, c'est Hitchcock, d'une voix supérieure à Kubrick, et ensuite Fellini, John Ford, Jean Renoir.
Voilà. Vous, par exemple, votre film préféré, c'est lequel, Michel Simon?
Bah, j'en ai 10.
Ouais, mais le premier des 10.
Oh, écoutez, c'est impossible. Déjà 10, c'est terrible.
Mais qu'est-ce que vous avez mis en tête de votre liste? Je peux voir, je peux
j'ai
lire.
J'ai pas mis en tête, ils sont tous ex-aequo. Ils sont 10, tous au même niveau, mais j'ai choisi, Muriel de Rennes, j'ai choisi un Buster Keaton, j'ai choisi un Lubitsch, Trouble in Paradise, un Walsh, L'Enfer est à lui, Madame II de Max Ophuls, L'Intendant sans le chaud de Mizoguchi, Persona de Bergman, La Cité des Douleurs de Wuxia Ossian et La Ligne Rouge de Terrence Malick.
Est-ce que vous continuez à voir des films en été, Michel Simon, ou vous faites une pause?
C'est plutôt en DVD en été.
Ah, vous continuez à voir des films?
Je suis à la campagne, oui, mais je lis beaucoup surtout en été, mais ça m'arrive bien sûr de voir beaucoup de films aussi.
Bon, on se retrouve à la rentrée?
J'espère bien, si vous m'y invitez, je serai là.
Mais c'est toujours avec plaisir. Michel Simon du magazine Positif. Merci d'être de plus en plus nombreux à vous réveiller avec le réveil culturel. On se retrouve demain, et demain, comme tous les jeudis, on parle de musique.
Vous êtes sur France Culture, dans un instant les informations de 6h30, à suivre le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
Non, je ne veux plus jamais travailler, plutôt crever. Non, je n'irai plus jamais au supermarché, plutôt crever. Non, mais laissez-moi. Non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi. Non mais laissez-moi manger ma banane tout nu sur la plage. Non, je ne veux plus jamais m'habiller. Laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane tout nu sur la plage. Oui monsieur, je sais que ce sont vos enfants, mais quand ils me voient, ils rigolent tout. Alors, laissez-moi, 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 laissez-moi!
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente le Love Cycle de Sharon Eyal. La chorégraphe israélienne revient au Théâtre National de la Danse avec un diptyque hypnotique et engagé où la danse est d'une rare puissance. Love Cycle, du 6 au 15 juin, à Chaillot, Théâtre National de la Danse à Paris. Un partenariat France Culture.
Ce mercredi sur France Culture, sport au féminin avec Guillaume Erner.
Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la France accueille la Coupe du Monde féminine de football. L'occasion de parler des femmes dans le sport autour d'un ballon rond ou pas. Alors je vous donne rendez-vous ce mercredi dans les matins.
Les femmes se cramponnent dans les matins de France Culture dès 7h et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Au moins 3 Français engagés dans les rangs de l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale continuent aujourd'hui encore à toucher une pension versée par Berlin. Le ministère des Armées en France l'affirme. Nous y reviendrons dans un instant, notamment avec la secrétaire d'État Geneviève Darrieussecq. Nous nous pencherons ensuite sur les nouvelles accusations qui visent Carlos Ghosn. Il aurait utilisé 11 millions d'euros dans une filiale néerlandaise de l'alliance Renault-Nissan pour des dépenses personnelles. Au Soudan, certains habitants de Khartoum vivent dans la peur en ce moment. Parallèlement à la répression meurtrière de lundi sur une place de la ville, les militants ont aussi envahi un hôpital avec des militaires. Nous irons sur place. Et puis, nous vous expliquerons pourquoi les salariés de l'enseigne Sephora aux États-Unis vont quitter leur poste pendant une heure aujourd'hui. Ils seront sensibilisés par l'entreprise à la lutte contre le racisme. Des Français engagés volontaires aux côtés des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale perçoivent donc encore aujourd'hui des pensions allemandes. Voici le résultat d'une enquête ouverte au début de l'année. Paris avait demandé des précisions sur les 54 bénéficiaires français ou vivant en France qui touchent des pensions versées par Berlin. Et d'après les dernières réponses allemandes, 3 profils au moins posent question, Franck Cognard.
Ces 3 hommes, c'est ce qu'a appris le gouvernement français, ont porté l'uniforme SS. Le premier appartenait à la division Totenkopf, tête de mort en allemand, créée au début pour garder les camps d'extermination, puis déployée ensuite en Pologne ou en France, laissant à chaque fois derrière elle un long sillon de massacres, comme le mitraillage en 1940 de soldats sénégalais qui venaient de se rendre. Le deuxième cas qui pose problème, c'est celui d'un homme qui a commencé son parcours au sein de la très pro-nazi Légion des volontaires français, avant d'être incorporé à la division SS Charlemagne, division qui a protégé jusqu'au bout le bunker berlinois d'Adolf Hitler. Enfin, le troisième homme est un SS lui aussi, un Allemand naturalisé français. Mais une nouvelle fois, la France juge insuffisante ses réponses et a posé de nouvelles questions à Berlin, notamment concernant ces 3 hommes. Quand exactement ont-ils intégré ces unités tristement connues et à quel combat exactement ont-ils participé?
Des questions posées notamment par Geneviève Darrieussecq, la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Elle était l'invitée du journal de 22h hier soir sur France Culture.
J'ai eu des informations de la part des autorités allemandes. Effectivement, 54 bénéficiaires de ces pensions d'invalidité. Et dans ces 54 bénéficiaires, il y a 27 militaires blessés de guerre, dont 9 Français et 18 qui sont des Allemands vivant en France. Et dans ces 27 blessés de guerre, il y a effectivement 4, on va dire, personnes qui me posent question, parce que je n'ai bien sûr pas leur nom, et ça c'est logique, mais les unités combattantes dans lesquelles ils étaient, c'était des unités SS. Donc moi je veux avoir des renseignements complémentaires, clairs, de la part des autorités allemandes et pas que des renseignements administratifs, je voudrais qu'il y ait une parole politique allemande.
Des propos recueillis par Stanislas Vazak. L'enquête sur les dépenses de Carlos Ghosn par le biais de la holding néerlandaise commune à Renault et Nissan, à savoir RNBV, cette enquête est définitivement terminée, effectuée par le cabinet d'audit Mazars. Elle conclut que l'ancien patron de l'alliance Renault-Nissan, Carlos Ghosn donc, a utilisé près de 11 millions d'euros pour ses frais personnels, Isabelle Raymond.
Il y a d'abord cette fête au château de Versailles qui a marqué les esprits par son faste et sa démesure. Personnel costumé, dîner concocté par le chef Alain Ducasse. Elle s'est déroulée le jour même des 60 ans de Carlos Ghosn. Censé célébrer l'anniversaire de l'alliance Renault-Nissan, la liste des invités laisse penser qu'il s'agissait plutôt d'un événement personnel. Mais c'est l'usage des avions mis à la disposition du patron qui a coûté le plus d'argent selon l'enquête. Carlos Ghosn voyageait sans cesse pour le travail entre Paris, Amsterdam et Tokyo, sauf que les arrêts à Beyrouth étaient légion, 5 millions d'euros de frais en plus et personnels. S'ajoutent à cela des dons aux établissements scolaires fréquentés par le jeune Carlos à Beyrouth, puis par son fils Anthony à Paris, toujours aux frais de RNBV, plus des honoraires aux francs-maçons Alain Bauer et à l'ancienne garde des Sceaux Rachida Dati sans travail réel en contrepartie selon l'enquête. 10,9 millions que Carlos Ghosn va maintenant devoir rembourser, sinon le constructeur français portera plainte avec son partenaire Nissan au nom de RNBV contre Carlos Ghosn devant la justice néerlandaise.
J'ajoute qu'une enquête est ouverte après une plainte dans cette affaire contre l'ancienne ministre Rachida Dati et le criminologue Alain Bauer. Après plusieurs heures de réunion avec les cadres de la droite et du centre, Gérard Larcher annonce la tenue d'une grande convention nationale en octobre prochain. Dans les jours qui viennent, ce sont des conventions régionales qui doivent se mettre en place. Le président du Sénat avait pris l'initiative de la réunion après la démission de Laurent Wauquiez à la tête du parti Les Républicains. En bref, encore cette étude, publiée par 60 millions de consommateurs. Elle passe au crible 130 produits consommés consommer quotidiennement, notamment des pommes, de l'huile d'olive ou du lait. Et elle conclut, le bio n'est pas sans danger. Les polluants retrouvés sont des substances que l'on retrouve dans les sols ou dans l'air, notamment à cause des incinérateurs de déchets. Les États-Unis, le Royaume-Uni et la Norvège dénoncent en chœur l'appel des généraux au pouvoir au Soudan. Les trois pays demandent des élections libres et justes. Le Conseil de sécurité de l'ONU, en revanche, n'a pas réussi à adopter un texte commun à ce propos hier, ayant été bloqué par la Chine et par la Russie. Sur place au Soudan, la situation reste tendue, deux jours après la répression de militaires à Khartoum qui a fait au moins 30 morts. Sébastien Nemet s'est rendu dans un hôpital de la capitale où, là aussi, des opérations des forces armées ont eu lieu ces derniers jours.
Aux urgences, des dizaines de patients déambulent. Tous sont des victimes venues du sit-in. Pourtant, même à l'hôpital, ils ne sont pas en sécurité. Mohamed Ibrahim Mourajer, fils d'un patient.
Hier, l'hôpital a été attaqué. Les militaires ont tiré et on a essayé de partir, mais ils nous encerclaient. Un médecin a été blessé. Des soldats sont entrés, mais je ne pouvais rien faire. Alors je me suis couché au sol.
Soudain, nouvelle alerte, les militaires encerclent l'hôpital et sont entrés, chacun tente de se cacher. Certains se barricadent dans les toilettes alors que dans le bâtiment, des inconnus circulent et tentent d'ouvrir des portes. L'alerte est levée, les soldats sont repartis, mais la scène se répète plusieurs fois, empêchant l'établissement de fonctionner. Sora Mafi a son père qui attend une opération du cerveau.
Je suis très inquiète, j'ai peur qu'ils entrent et tirent sur tout le monde, car personne ne peut les arrêter. En plus, le chirurgien de mon père ne peut pas accéder au bâtiment.
Dans cette situation chaotique, certaines bonnes volontés sont venues prêter main forte au personnel. Ahmed Rabadan s'est porté volontaire.
On a besoin de distribuer la nourriture aux patients, mais elle ne peut pas être livrée à la cuisine à cause des militaires. On a aussi des fractures, des traumatismes avec un besoin urgent d'opérer. Le Soudan se transforme en Syrie ou en Libye.
D'un coup, les militaires repartent sans explication. Des médecins rejoignent l'hôpital et commencent le travail, priant pour qu'il n'y ait plus d'intrusion.
Sébastien Nemet, correspondant de RFI à Khartoum pour France Culture. Et nous reviendrons sur la crise en ce moment au Soudan avec Xavier Martinet. Et dans ces enjeux internationaux, ce sera à 6h45. Pour le moment, il est 6h36. Vous écoutez France Culture. Le procès en appel du cardinal Pell en Australie s'ouvre aujourd'hui. L'ancien conseiller du pape François, ex-trésorier du Vatican, avait été condamné, je vous le rappelle, en mars dernier à 6 ans de réclusion pour abus sexuels sur mineurs. Les faits remontent à la fin des années 90. Le ton monte entre Pékin et Washington, les deux puissances en pleine guerre commerciale et technologique. La Chine appelle ainsi ses citoyens à la prudence, les citoyens qui se trouvent en ce moment aux États-Unis, Dominique André.
L'agence de presse officielle chinoise cite des fusillades et des vols qui, selon Chine Nouvelle, se passent fréquemment aux États-Unis. L'agence ajoute que le ministère de la Culture et du Tourisme appelle les touristes chinois à évaluer les risques liés à un voyage aux États-Unis. L'escalade verbale monte d'un cran encore avec le ministère des Affaires étrangères qui accuse les autorités américaines de harceler les citoyens chinois avec des visites à domicile ou des interrogatoires. Washington reconnaît avoir renforcé les contrôle sur les visas d'étudiants chinois recrutés par les services de renseignement étrangers, affirme un porte-parole américain. Les échanges verbaux entre les deux capitales s'enveniment sur fond de guerre commerciale et en plein 30e anniversaire de la répression du mouvement de Tiananmen. À 3 semaines du sommet du G20, les conditions d'une éventuelle rencontre entre Xi Jinping et Donald Trump sont loin d'être réunies.
Partons maintenant aux États-Unis où la chaîne de magasins de produits cosmétiques Sephora va fermer aujourd'hui toutes ses enseignes pendant 1 heure. L'idée est de sensibiliser ses employés à la lutte contre le racisme et aux questions de diversité. Cela fait en fait suite à une plainte de discrimination raciale déposée par la chanteuse SZA. Les explications de Grégory Phillips.
L'incident avait fait la une des médias américains et assuré une très mauvaise publicité à Sephora. Le 1er mai dernier, la chanteuse de R&B, SZA, que l'on entend ici avec le groupe Maroon 5, raconte l'expérience qu'elle a vécue quelques jours plus tôt dans un magasin Sephora de Calabasas, au nord de Los Angeles. Une employée, Sandy, a appelé la sécurité pour vérifier que je n'étais pas en train de voler, écrit-elle aux 2,5 millions de personnes qui la suivent sur Twitter. Presque immédiatement, la chaîne de magasins répond à la chanteuse pour lui dire qu'elle prend ce genre de plainte très au sérieux. Puis, il y a 10 jours, Sephora annonce que tous ses salariés américains vont recevoir une formation diversité. C'est C'est donc aujourd'hui. Sephora va fermer pendant une heure ses 460 magasins aux États-Unis, ses 700 points de vente, ainsi que son siège à San Francisco. Le groupe qui appartient à LVMH suit ainsi l'exemple de Starbucks qui avait fait la même chose l'an dernier après l'arrestation sans raison de deux hommes noirs dans un magasin de Philadelphie. Cette fermeture d'un après-midi entier avait coûté à Starbucks environ 12 millions de dollars de manque à gagner.
Grégory Phillips depuis Washington pour France Culture. Le temps de ce mercredi en France, il sera marqué par un passage pluvieux du sud-ouest jusqu'au nord avec des orages soutenus sur le nord-est. Le soleil finalement ne va briller toute la journée que près de la Méditerranée. Comptez ce matin 15 degrés à Nantes et Bayonne, 16 à Lille et Paris, 24 degrés déjà à Besançon et 27 à Lyon et à Marseille. Il est 6h40, vous écoutez France Culture. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Nous vous retrouvons pour le Journal des Idées. Et Jacques, vous le notez ce matin, l'introversion, la discrétion, la réserve ne sont pas des qualités valorisées. Et c'est vrai dès l'école où elles peuvent même être des facteurs discriminants.
Oui, comme disait Anaïs Nin, notre culture a élevé au rang de vertu le fait de vivre comme des extravertis. Et en effet, Rachid Zerouki souligne dans les pages Idées de Libération que l'institution scolaire n'y est pas étrangère. On attend de tous les élèves qu'ils engagent des conversations, participent, répondent aux questions ou en posent. Dans le cas contraire, la sanction tombe sur le bulletin comme un indice de manque d'investissement. Le prof en SECPA à Marseille sait de quoi il parle. Ces sections d'enseignement général et professionnel adaptées accueillent des élèves en difficulté dont la relégation provient souvent d'une telle disposition négative à la mise en scène de la vie quotidienne. Pour reprendre le titre d'une des plus célèbres enquêtes du sociologue Erving Goffman. En l'occurrence, il convient de distinguer introversion et timidité. On les mélange parce qu'elles sont toutes deux liées à la socialisation, mais le manque d'intérêt pour l'interaction n'est pas la même chose que la peur de l'humiliation sociale, insiste Sophia Dembling, l'auteur de « La revanche des discrets ». Lina, une interne en psychiatrie qui a connu les sermons rituels dans les bulletins de notes cités par Rachid Zerouki en témoigne. J'ai mis du temps à comprendre que je n'étais pas timide, seulement réservé, dans le sens où fournir une réponse orale exigeait de moi une réflexion préalable. Dans La force des discrets, sous-titré Le pouvoir des introvertis dans un monde trop bavard, Suzanne Cain explique que les introvertis vivant dans le monde de l'idéal extraverti sont comme des femmes dans un monde d'hommes bafoués pour un trait de caractère indissociable de leur identité profonde. À l'école, ce dénigrement prend la forme de remarques blessantes ou de tentatives infructueuses pour libérer l'introverti. Pourtant, observe Suzanne Cain, les introvertis se concentrent sur le sens qu'ils donnent aux événements qui les entourent, pendant que les extravertis plongent au cœur de ces événements. Les introvertis rechargent leur batterie dans la solitude. C'est au contraire s'ils n'ont pas assez d'interactions sociales que les extravertis ont besoin de les recharger. La nouvelle orientation des programmes scolaires qui fait de l'usage de la langue française à l'oral la première compétence du socle commun avant l'écrit ne risque-t-elle pas de jeter l'enfant avec l'eau du bain? S'il est bon que l'oral fasse l'objet d'un enseignement spécifique pour lutter contre les inégalités sociales, Jean-Yves Mas met en garde dans l'ouvrage collectif dirigé par Laurence Decoq et Irène Pereira, Les pédagogies critiques, publié chez Agone. Jean-Yves Mas donc met en garde contre une récupération de thématiques progressistes par les théories issues du management. Dans le monde diplomatique, Laurence Decoq dénonce l'idéologie qui inspire, selon elle, le projet de loi pour une école de la confiance actuellement débattu au Parlement. De la maternelle à la sélection inavouée à l'université instaurée par le dispositif Parcoursup, en passant par la réforme du lycée et du baccalauréat. L'objectif, je cite, l'objectif de démocratisation scolaire défini comme la volonté de compenser les inégalités sociales, culturelles ou territoriales par un système éducatif obligatoire, gratuit et laïque, qui laisse place à un modèle concurrentiel où les déterminismes sociaux se trouvent contrebalancés par des coups de pouce individualisés aux plus méritants. Elle évoque notamment l'épreuve dite du grand oral, calquée sur le modèle des grandes écoles, qui ne pourra aboutir qu'à valoriser des élèves déjà habitués aux épreuves orales, c'est-à-dire souvent ceux des établissements favorisés. Philosophie Magazine consacre un dossier à l'art de l'éloquence. Martin Legros rappelle les trois principes de la rhétorique classique, selon Aristote. L'éthos, l'autorité morale de l'auteur, le pathos, sa capacité à susciter l'empathie par les émotions, et le logos, qui argumente selon les règles de la logique. Cicéron les traduira ainsi, plaire, instruire, émouvoir. À l'époque moderne, deux auteurs introduiront un élément décisif pour la suite, l'authenticité de l'expression de soi. Montaigne, je cite, « me trouvant entièrement dépourvu et vide de toute autre matière, je me suis présenté moi-même à moi pour argument et pour sujet. » Et Rousseau, qui annonce ainsi l'entreprise des confessions, « je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature, et cet homme, ce sera moi. » Pourtant, le secret a du bon, et pas seulement pour alimenter le monologue du divan. Anne Dufour-Mantel le résume dans « Défense du secret ». Des registres de la prière à ceux profanes de l'écoute, de la voix intérieure, de la rêverie nonchalante à l'ennui, de l'écriture de la lettre au temps étiré de l'attente, les voies du secret donnent accès à un horizon d'immanence illimitée. 6h45, vous écoutez France Culture. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire des enjeux internationaux, aujourd'hui le Soudan.
C'est ça, vous l'avez entendu, c'était dans la nuit de lundi à mardi. Après plus de 5 mois de manifestations, les forces armées soudanaises ont dispersé les manifestants à Khartoum en tirant à balles réelles. Le bilan est très lourd, 60 tués, apprend-on tout juste, des centaines de blessés. La transition démocratique désormais interrompue. Les militaires ont annulé tous les accords de partage du pouvoir. Quel avenir pour la révolution, l'étouffement ou la radicalisation? On essaye de voir ça avec vous. Marc Lavergne, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone ce matin. Vous êtes géopolitologue, directeur de recherche au CNRS, bien sûr spécialiste du Soudan. Jusqu'ici, on pourrait dire que les militaires s'étaient gardés d'une répression trop brutale, même s'il y avait déjà eu des épisodes de crispation, le 13 mai par exemple, avec 5 personnes tuées. Mais là, d'une part, qu'est-ce qui s'est passé? Et est-ce que l'armée a franchi un pas irrémédiable, on pourrait dire?
Oui, je pense que l'armée avait compté sur le ramadan et sur la chaleur, hein, qui est extrêmement forte en ce moment au Soudan, hein, plus de 40 degrés chaque jour, pour disperser les manifestants, pour calmer leur ardeur. En fait, ça ne s'est pas produit. Il y a vraiment une organisation extrêmement efficace qui s'est développée du côté des manifestants qui tiennent la rue. Et d'un autre côté, il y a eu des visites vers les pays qui sont un peu les mentors de la junte soudanaise, c'est-à-dire d'un côté l'Égypte, d'un autre, deux pays que nous connaissons bien, qui sont l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Donc, le chef du comité militaire suprême de transition s'est rendu dans deux de ces pays. Son adjoint s'est rendu, lui, à Riyad, et ils ont sans doute obtenu un feu vert pour arrêter ce processus, ou bien même des ordres, hein, pour arrêter ces négociations avec le mouvement de la rue. Et donc, ils sont passés à l'action. Alors, est-ce que c'est l'armée elle-même? Est-ce que c'est des forces supplétives? Ça, c'est une autre affaire, parce que ces forces supplétives, aujourd'hui, des sortes de mercenaires, si vous voulez, sont ceux qui ont été appelés à la rescousse pour tenir la rue et pour surtout tirer sur les manifestants.
Oui, les Rapid Support Forces, forces de soutien rapide, vous avez évoqué l'inscription géopolitique, hein, des tensions au Soudan en ce moment. Simplement, pour bien comprendre l'attitude des militaires, comment est-ce que vous expliquez les regrets qui ont été exprimés très tôt par le Conseil militaire de transition le matin, qui a parlé d'une opération de nettoyage qui aurait mal tourné? On a un peu l'impression des mêmes justifications que le 13 mai précisément. Est-ce que c'est crédible, disons, des éléments armés qui échappent et qui, eux, vont un peu trop loin, quoi?
Non, je crois que là, on parle effectivement d'une soixantaine de morts et de centaines de blessés. Donc, c'était une opération qui était mûrement réfléchie, autorisée et, encore une fois, qui répondait à des demandes de pays qui sont qui ont la main, si vous voulez, qui sont à l'extérieur, qui sont l'Arabie et l'Égypte, qui ont très peur de la démocratisation au Soudan.
Et qu'on comprenne bien ce qui s'est passé pour le calendrier. Il y avait des négociations qui étaient de plus en plus difficiles, mais quand même assez bien avancées. Il était question de la nature du Conseil souverain qui devait être mi-civil, disons mi-militaire. Mais ces négociations bloquées depuis le 20 mai, comment ça se fait que tout se soit précipité, alors même qu'on aurait pu croire qu'on approchait d'une solution ?
Oui, il me semble que ces négociations étaient un moyen de gagner du temps, hein, parce que les militaires ne voulaient pas lâcher sur l'essentiel, c'est-à-dire la présidence d'un conseil souverain, et puis il y avait cette période de 3 ans qui était demandée pour arriver à vraiment une mise en forme d'une institutionnalisation du Soudan nouveau, et du côté des manifestants et de l'association des professionnels qui dirigent le mouvement, il y avait peut-être un manque de structuration, d'organisation, de lien avec les partis politiques traditionnels, qui étaient restés très en retrait, y compris d'ailleurs aussi les forces rebelles qui sont encore armées dans les montagnes périphériques du Soudan, qu'on n'a pas beaucoup entendu dans ce mouvement. Donc il y a quelque chose d'un peu hypocrite de la part des militaires qui essayaient d'affaiblir le mouvement, qui attendaient que le mouvement s'essouffle de lui-même.
Et de la part de l'association des professionnels soudanais, donc qui représente, on va dire, la plus grande partie des manifestants, cette association avait justement lancé une grève générale autour du 28-29, disait-elle, pour accélérer le transfert du pouvoir. Est-ce qu'on peut parler d'une crispation, voire d'une radicalisation de la rue de ce point de vue-là ?
Oui, elle a fait appel aux moyens dont elle disposait. D'un autre côté, en face, il y avait des fusils, et elle a essayé de bloquer le pays. Mais cette grève générale, c'est quelque chose d'un petit peu virtuel, d'un petit peu symbolique, dans la mesure où déjà les magasins sont vides, personne ne travaille. Actuellement, les gens sont mobilisés, donc c'était surtout quelque chose qui cherchait à faire une pression psychologique sur l'armée et surtout à montrer la détermination et l'ampleur de ce mouvement social.
Même si l'opposition semble un peu divisée, comme l'ont noté beaucoup de journaux, notamment ce fameux parti Oumma de Sadiq al-Mahdi, l'ancien Premier ministre, qui s'est en quelque sorte désolidarisé de l'appel à la grève. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Et pourquoi ce parti prendrait ses distances aujourd'hui ?
Alors ce parti, comme tous les partis d'autrefois, je dirais, on ne connaît pas quelle est leur popularité réelle. Alors c'est un parti qui est assis sur une confrérie religieuse, le mouvement mahdiste, dont Sadiq al-Mahdi est l'héritier. C'était l'ancien Premier ministre qui a été déposé il y a 30 ans. Et aujourd'hui, il joue un peu un double jeu, c'est-à-dire que d'un côté, il a le lien avec la rue, mais il essaye surtout de faire valoir sa légitimité historique, si vous voulez, auprès des militaires, et il pourrait servir, je pense, d'un élément cosmétique pour montrer une façade démocratique à ce régime militaire qui se met en place.
Et puisque vous avez évoqué les aspects religieux, il y a aussi eu récemment, j'ai plus la date, mais si le 28 mai, une prière de rue de plusieurs centaines d'islamistes. On n'en avait pas beaucoup parlé, mais ces islamistes militaient pour ne pas abandonner la charia. Est-ce que ça veut dire qu'en un sens, les pays arabes et l'Égypte en particulier ont raison de se méfier, disons, d'une reprise en main religieuse radicale du mouvement ?
Non, je crois que c'était assez fabriqué, cette manifestation des islamistes qui étaient en fait des soutiens du régime militaire. C'était pas des gens très nombreux. Et puis la charia et son rétablissement dans la Constitution, ce genre de choses, ont été mis en avant de façon vraiment artificielle, parce que depuis le début de la manifestation, on n'a pas entendu parler de religion. Depuis le mois de novembre, toute cette mobilisation, elle avait pour but d'abord de rétablir l'économie du pays, et puis ensuite la chute du président Omar al-Béchir. Donc depuis 11 semaines maintenant, le président est tombé et on est passé à une autre phase qui est aujourd'hui l'institutionnalisation d'un régime démocratique. Et encore une fois, ce ne sont pas des forces laïques ni religieuses qui s'expriment, c'est le peuple soudanais de la capitale et puis aussi des villes de province. Et ça, c'est assez frappant. Et je pense que la mobilisation de cette dimension religieuse, c'est quelque chose qui visait à faire peur aux pays occidentaux en leur disant, vous voyez, on a des terroristes ici qui sont contre nous, donc nous, militaires, représentons l'ordre. Et donc, il faut nous soutenir. Et pareil pour les pays du Golfe, d'ailleurs.
Et alors, justement, de ce point de vue-là, qu'est-ce qui rend l'armée si confiante aujourd'hui? Est-ce que c'est précisément ce soutien des puissances du Golfe, nommément Émirats Arabes Unis et Arabie Saoudite, qui finance en grande partie le conseil militaire, qui, comme vous l'avez expliqué pour l'Égypte, ont aussi reçu la plupart des généraux, en tout cas les deux principaux, Al-Burhan et puis Emiti récemment. Est-ce que c'est de là que les militaires tirent leur principale force aujourd'hui pour agir?
Oui, je pense que c'est même plus que ça. C'est-à-dire qu'ils ont reçu des instructions aussi bien à Abu Dhabi qu'à Riyad, parce que là, leur marge de manœuvre est tout à fait virtuelle. Ces deux pays ont proposé de donner au Soudan, de décaisser 3,5 milliards de dollars, au moins pour remplir les magasins, pour calmer la foule. Et je pense que à d'autres titres aussi, ce sont des pays qui ont la main maintenant sur le Soudan, parce que c'est en plus un pays qui est stratégique pour eux, dans la mesure où c'est un pays qui est riverain de la mer Rouge, mais c'est aussi un pays qui recèle des ressources qui peuvent les intéresser. On a derrière, en filigrane, si vous voulez, toutes les grandes manœuvres de la Chine et puis des pays qui préparent l'après-pétrole, hein, ces pays du Golfe, qui aujourd'hui essayent de transformer leur économie en mettant la main sur les richesses premières, qu'elles soient agricoles, qu'elles soient minières, des pays d'Afrique.
Oui, donc on pourrait dire la révolution soudanaise victime de l'intérêt géo-économique du pays. Dernière chose, il y a eu un communiqué de 8 pays de l'Union européenne qui ont condamné les attaques. En même temps, il y a eu un projet de résolution à l'ONU qui n'a pas abouti, les militaires qui annoncent des élections. Est-ce que ça peut se tenir dans ces conditions et avec les pressions internationales?
Non, alors les élections sont prévues dans 9 mois, mais avec un régime de répression tel qu'il se déclenche, eh bien, je crois que c'est quelque chose qui vise vraiment à apaiser les gens, mais qui ne marche pas. Quant à l'Union européenne et aux démocraties occidentales, elles ont été très absentes finalement dans cette affaire. Hein, je crois qu'elles ont aussi peur de la démocratie au Soudan que les autres, et puis surtout, elles sont dépendantes de leurs clients qui sont les acheteurs d'armement. Hein, c'est valable pour la France essentiellement, hein, les pays du Golfe sont nos alliés, nous les soutenons dans la guerre au Yémen, nous les armons, et donc nous sommes un peu dépendants de leur bonne volonté, c'est eux qui connaissent la situation, c'est eux qui sont en première ligne, donc à l'ONU on s'aperçoit que le Conseil de sécurité n'a pas vraiment bougé, l'Allemagne et la Grande-Bretagne ont réuni des gens, mais la France était particulièrement silencieuse sur ce dossier.
Et voilà, même problématique et dépendance, on en reparlera. Merci beaucoup Marc Lavergne pour vos explications aujourd'hui.
France Culture. L'esprit d'ouverture.
France Culture présente Saïgon de Caroline Guillain-Guyenne, de retour aux ateliers Berthier, l'Odéon Théâtre de l'Europe. Le restaurant de Marie-Antoinette est traversé par l'histoire et la géographie. Il est à la fois à Paris et à Saïgon. Là, d'une ville à l'autre, à travers les époques, quand le monde bascule, on vient dîner, boire et chanter, danser, s'aimer et pleurer. Ils s'appellent Lynn et Édouard, Ao et Cécile, des rencontres et des histoires qui se croisent dans un grand récit choral, épique, bouleversant. Saïgon, du 5 au 22 juin, aux ateliers Berthier à l'Odéon Théâtre de l'Europe à Paris, à partenariat France Culture.
6h57 sur France Culture, c'est l'heure des matins présentée par Guillaume Erner.
Bonjour Xavier Guillaume. Martinet, bonjour à toutes et à tous.
Avec une question malicieuse aujourd'hui, faut-il obliger nos dirigeants à jouer leur peau?
Jouer sa peau au sens littéral du terme, autrement dit, si vous voulez survivre, vous réussissez, sinon... C'est la formule barbare qui a été appliquée en Corée du Nord puisque l'échec du dernier sommet entre Nord-Coréens et Américains a entraîné l'exécution de l'émissaire spécial de Kim Jong-un et de 4 autres responsables du ministère des Affaires étrangères. Quant à l'interprète nord-coréen de la rencontre, il aurait commis une faute de traduction, ce qui se serait traduit, si j'ose dire, par un séjour dans un camp de prisonniers. Bref, votre cauchemar existe, il se trouve en Corée du Nord. Oui, mais voilà. Il se trouve que « Jouer sa peau » est aussi le titre d'un livre. Un livre signé par un essayiste génial, foutraque et délirant, Nassim Nicolas Taleb, publié l'année dernière aux éditions des Belles Lettres. Alors, dans ces livres, Taleb théorise, explique un certain nombre de choses alambiquées, mais qui donnent à chaque fois de quoi penser, même si, évidemment, un pays régi conformément par les théories de Taleb serait promis à l'injustice et au chaos. Et donc, dans ce livre, intitulé « Jouer sa peau », Taleb explique que le monde occidental va mal précisément parce que nos responsables ne risquent plus leur peau. Si l'on en croit Taleb, jamais auteur de preneur de non-risque de non-risque, c'est comme cela qu'il appelle nos responsables, des personnes qui ne s'exposent pas personnellement, n'ont exercé une telle emprise sur le cours des choses. C'est ainsi que Taleb dénonce par exemple ce qu'il appelle les asymétries dans la vie quotidienne, autrement dit ces mécanismes qui se présentent sous la forme de l'alternative « face je gagne ». Pile tu perds. Une situation non risquée pour les uns où seuls les autres peuvent perdre. C'est par exemple ce jeu qui a permis aux financiers en 2008 de plonger le monde dans une profonde dépression. Et pourquoi s'en serait-il privé, explique Taleb, puisque pendant des années, ils ont gagné des milliards en vendant des produits très risqués. Bref, ils ont gagné beaucoup et lorsqu'ils ont perdu, eh bien ils ont perdu bien peu. En l'occurrence, ils n'ont jamais joué leur peau. Tout le contraire de ce qui se passe en Corée du Nord où une erreur de traduction peut vous envoyer en camp. Oui, mais voilà, imaginez un peu maintenant, vous êtes un responsable américain et vous savez que si vous refusez l'accord proposé par vos interlocuteurs nord-coréens, la personne que vous avez en face de vous va être exécutée. Comment négocier dans ces conditions? Voilà un nouveau dilemme dans les relations internationales, une autre asymétrie où l'on doit se risquer à risquer la peau de l'autre.